Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now.
Save big money at Menards.
13e partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve, 13e partie. Cependant, les femmes et les officiers de la reine prisonnière, étonnés de ce qu'elle ne sortait point de son cabinet secret, en furent alarmés. Les défenses expresses qu'elle avait faites de ne pas l'interrompre leur fit passer la nuit sans frapper à sa porte. Mais l'impatience faisant place à toute autre considération, ils frappèrent vivement, et personne ne leur répondant, ils enfoncèrent la porte, ne doutant plus qu'il ne lui fût arrivé quelque accident. Quoiqu'ils s'attendissent à tout ce qu'il y a de plus funeste, ils ne furent pas moins consternés de ne la pas trouver. On l'appela, on la chercha vainement. Rien ne s'offrit pour soulager le désespoir que son absence causait. On fit mille raisonnements, tous aussi absurdes les uns que les autres. On ne pouvait soupçonner que son évasion fût volontaire. Elle était toute puissante dans votre royaume. Le pouvoir souverain que vous lui aviez laissé ne lui était contesté par qui que ce fût. Tous lui obéissaient avec joie. La tendresse que vous aviez l'un pour l'autre, celle qu'elle avait pour sa fille et pour des sujets dont elle faisait ses délices, empêchait qu'on ne l'accusât de sa fuite. Où fût-elle allée pour être mieux? D'ailleurs, quel homme eût osé enlever une reine du milieu de ses gardes et du fond de son palais? On eût su la route que les ravisseurs eussent pu prendre. Le malheur était certain, quoique les circonstances en fussent cachées. Il y en avait un autre à redouter. C'était, Seigneur, la façon dont vous recevriez cette fatale nouvelle. L'innocence de ceux qui étaient responsables de la personne de la reine ne les rassurait point contre les effets de votre juste courroux. Il fallait se déterminer à fuir de vos états, et par cette fuite se déclarer coupable d'un crime qu'il n'avait pas commis, où il fallait trouver le secret de vous cacher ce malheur. Après beaucoup de délibérations, on n'en imagina point d'autre que de vous persuader qu'elle était morte, ce qui fut exécuté dans l'instant. On fit partir un courrier pour vous apprendre qu'elle était tombée malade. Un second, qui partit quelques heures après, vous porta la nouvelle de sa mort. C'était afin que votre amour ne vous fît pas venir en diligence. Votre présence eût rompu toutes les mesures qui faisaient la sûreté générale. On lui fit des obsèques dignes de son rang, de votre affection, et des regrets d'un peuple dont elle était adorée et qui la pleurait aussi sincèrement que vous-même. Cette cruelle aventure fut toujours un secret pour vous, quoiqu'il n'y eût personne dans toute l'île heureuse qui l'ignorât. La première surprise avait rendu ce malheur public. La douleur que vous sentîtes de cette perte fut proportionnée à votre affection. Vous n'y trouvâtes de soulagement qu'à faire venir la princesse votre fille auprès de vous. Les innocentes caresses de cet enfant firent toute votre consolation. Vous ne voulûtes plus vous en séparer. Elle était charmante et vous présentait sans cesse un portrait vivant de la reine sa mère. La fée ennemie, qui avait été la première cause de tout le désordre, en ouvrant le grand livre par lequel elle avait découvert le mariage de ma sœur, n'était pas venue vous voir sans payer sa curiosité. Votre présence avait produit sur son cœur le même effet que sur celui de votre épouse, et sans que cette expérience la portât à l'excuser, elle désirait ardemment de commettre la même faute. Invisible auprès de vous, elle ne pouvait se résoudre à vous quitter. Vous voyant inconsolable, elle ne se flattait pas d'un heureux succès dans ses amours, et craignant de joindre la honte de vos méprises à l'inutilité de ses desseins, elle n'osait se faire connaître à vous. D'un autre côté, jugeant qu'il était nécessaire de paraître, elle pensait que par le tour de son esprit, elle vous accoutumerait à la voir, et peut-être à l'aimer. Mais il fallait vous entretenir, et pour en avoir le moyen, elle rêva tant au tour qu'elle donnerait pour se présenter devant vous avec décence, qu'elle le trouva. Il y avait une reine voisine qui se voyait chassée de ses états par un usurpateur assassin de son mari. Cette triste princesse courait le monde pour trouver un asile et un vengeur. La fée l'enleva, et l'ayant mise dans un endroit sûr, elle l'endormit et prit sa figure. Vous la vîtes, Seigneur, cette fée déguisée, se jeter à vos pieds et implorer votre protection pour punir, disait-elle, le meurtrier d'un époux qu'elle regrettait autant que vous regrettiez la reine. Elle vous protesta que l'amour conjugal était l'unique motif qui la faisait agir et qu'elle renonçait de tout son cœur à une couronne qu'elle offrait à celui qui vengerait son cher époux. Les malheureux ont pitié les uns des autres. Vous entrâtes dans sa douleur, d'autant plus qu'elle pleurait un époux chéri et que, mêlant ses larmes avec les vôtres, elle vous parlait sans cesse de la reine. Vous lui accordâtes votre protection, et vous ne tardâtes pas à la rétablir dans son prétendu royaume en punissant les rebelles et l'usurpateur comme elle le semblait désirer. Mais elle n'y voulut pas retourner, ni vous quitter. Elle vous supplia pour sa sûreté de faire régir son royaume en son nom, puisque vous aviez trop de générosité pour accepter le présent qu'elle vous en voulait faire, et de lui permettre de vivre à votre cour. Vous ne pûtes lui refuser cette nouvelle grâce. Elle vous parut nécessaire à élever votre fille, car l'adroite mégère n'ignorait pas que cet enfant était l'unique objet de votre affection. Elle feignait une extrême tendresse pour elle, et la tenait continuellement entre ses bras. Vous prévenant sur la prière que vous alliez lui faire, elle vous demanda avec empressement de lui permettre de se charger de son éducation, disant qu'elle ne voulait point d'autre héritier que cette chère fille, qui serait la sienne et l'unique objet de son amour parce que, disait-elle, elle lui rappelait le souvenir de celle qu'elle avait eue de son époux et qui avait péri avec lui. Sa proposition vous parut si avantageuse que vous ne balançâtes point à lui remettre la princesse et même à l'en rendre maîtresse absolue. Elle s'acquitta parfaitement de sa charge, et par ses talents et son affection, elle eut entièrement votre confiance, et, comme à une tendre sœur, vous lui donnâtes votre amitié. Ce n'était pas assez pour elle. Tous ses soins ne tendaient qu'à devenir votre femme. Pour en venir à bout, elle ne négligea rien. Mais quand vous n'eussiez pas été l'époux de la plus belle des fées, elle n'était pas faite pour donner de l'amour. La figure qu'elle avait empruntée ne pouvait entrer en comparaison avec celle dont elle briguait la place. Extrêmement laide, et l'étant naturellement elle-même, elle n'eût pu emprunter de la beauté pour plus d'un jour par an. Cette expérience peu flatteuse lui fit comprendre que, pour réussir, il fallait qu'elle eût recours à d'autres moyens qu'à la beauté. Elle cabala secrètement pour obliger les peuples et les grands à vous solliciter de prendre une femme et pour se faire désigner. Mais certains discours ambigus qu'elle vous avait tenus pour sonder vos dispositions vous firent aisément connaître d'où provenaient les vives sollicitations dont vous étiez importuné. Vous témoignâtes nettement que vous ne vouliez pas entendre parler de donner une belle-mère à votre fille, ni vous mettre en état, en la subordonnant à une reine, de lui ravir le premier rang de vos états, avec l'espérance certaine de vous succéder au trône. Vous fîtes aussi entendre à cette fausse princesse qu'elle vous ferait plaisir de retourner chez elle sans bruit et sans retardement. Lorsqu'elle y serait de retour, vous promîtes de lui rendre tous les bons offices qu'elle pourrait attendre d'un ami fidèle et d'un voisin généreux. Mais vous ne lui cachâtes pas que, si elle ne prenait ce parti de bonne grâce, elle courrait risque d'y être forcée. L'obstacle invincible que vous opposiez à son amour la mit dans une colère terrible. Cependant, elle feignit une si grande indifférence sur cela qu'elle parvint à vous persuader. Cette tentative était un effet de son ambition et de la peur que dans la suite vous embarrassiez de ses états, aimant mieux, malgré l'empressement qu'elle avait témoigné pour vous les faire accepter, vous laisser croire qu'elle ne vous les avait pas offerts de bonne foi, que de vous donner à connaître ses véritables sentiments. Sa fureur, pour être cachée, n'en fut pas moins violente. Ne doutant point que ce ne fût la belle qui, plus puissante dans votre cœur que la politique, vous ferait renoncer à l'avantage d'augmenter votre empire d'une façon si glorieuse, elle conçut pour elle une haine aussi forte que celle qu'elle avait contre votre épouse, et prit la résolution de s'en défaire, ne doutant point que, si elle était morte, vos sujets renouvelant leurs instances, vous forçassent à vous mettre en état de laisser des successeurs. La bonne femme n'était guère en âge d'en donner, mais cette supercherie ne lui serait rien. La reine de qui elle avait pris la ressemblance était assez jeune pour en avoir encore beaucoup, sa laideur n'étant pas un obstacle à un hymen royal et politique. Malgré la déclaration authentique que vous aviez faite, on pensait que si votre fille mourait, vous céderiez aux continuelles représentations de votre conseil. On ne doutait même plus que votre choix ne tombât sur cette feinte reine, ce qui lui attirait des créatures sans nombre. Ainsi, par le secours d'un de ses flatteurs, dont la femme avait l'âme aussi basse que lui et qui était aussi méchante qu'elle, son dessein fut de se défaire de votre fille. Elle l'avait fait gouvernante de la petite princesse. Ils arrêtèrent entre eux de l'étouffer et de dire qu'elle était morte subitement. Mais pour plus grande sûreté, ils convinrent d'aller commettre ce crime dans la forêt voisine afin que personne ne les pût surprendre en cette barbare exécution. Ils comptaient qu'on n'en aurait pas la moindre connaissance et qu'il serait impossible de les blâmer de n'avoir pas demandé du secours avant qu'elle fût expirée, ayant pour excuse légitime qu'ils étaient trop éloignés. Le mari de la gouvernante se proposait d'en venir chercher après qu'elle serait morte, et pour qu'on ne les soupçonnât de rien, il devait paraître surpris de les trouver hors d'état d'être secourus quand ils seraient revenus dans l'endroit où il aurait laissé cette tendre victime de leur fureur, et d'ailleurs il étudiait la douleur et l'étonnement qu'il voulait affecter. Lorsque ma misérable sœur se vit dépouillée de son pouvoir et condamnée aux rigueurs d'une cruelle prison, elle me recommanda de vous consoler et de veiller à la sûreté de sa fille. Il n'était pas nécessaire qu'elle prît cette précaution. L'union qui est entre nous et la pitié qu'elle me faisait aurait suffi pour vous attirer ma protection, et sa recommandation ne me porta pas à remplir ses désirs avec plus de zèle. Je vous voyais le plus souvent que je pouvais, et autant que la prudence me le permettait, sans courir le risque de donner des soupçons à notre ennemi, qui m'aurait dénoncé comme une fée en qui l'affection fraternelle prévalait sur l'honneur de l'ordre et qui protégeait une race coupable. Je ne négligeais rien pour convaincre toutes les fées que je l'avais abandonnée à son malheureux sort, et par là je comptais me conserver plus de facilité de lui rendre service. Comme j'étais attentive à toutes les démarches de votre perfide amante, tant par moi-même que par les génies qui me sont soumis, son affreuse intention ne me fut pas cachée. Je ne pouvais m'y opposer à force ouverte, et quoiqu'il me fût facile d'anéantir ceux entre les mains de qui elle avait abandonné cette petite créature, la prudence m'en empêchait, et si j'eusse enlevé votre enfant, la maligne fée me l'aurait repris, sans qu'il m'eût été possible de le défendre. Il y a parmi nous une loi qui nous oblige d'avoir 1000 ans d'ancienneté avant que d'entrer en dispute contre nos anciennes, ou du moins, il faut avoir été serpent. Les périls qui nous accompagnent en cet état nous le fait nommer les fastes terribles. Il n'y en a point entre nous qui ne frémissent en songeant à l'entreprendre. Nous balançons longtemps avant de nous résoudre à nous y exposer, et sans un motif bien pressant de haine, d'amour ou de vengeance, il en est peu qui n'aiment mieux attendre leur vétérance du secours du temps que de la prévenir par ce dangereux moyen où la plus grande partie succombe. J'étais dans ce cas. Il s'en fallait 10 ans que mes 1000 ans fussent accomplis, et je n'avais de ressources que dans l'artifice. Je l'employai heureusement. Je pris la forme d'une ours monstrueuse, et me cachant dans la forêt destinée à cette détestable exécution, lorsque ces misérables vinrent pour exécuter l'ordre barbare qu'ils avaient reçu, je me jetai sur la femme qui avait la petite entre ses bras et sur la bouche de laquelle elle mettait déjà la main. La frayeur qu'elle eut l'obligea à laisser tomber ce précieux fardeau. Mais elle n'en fut pas quitte à si bon marché, et l'horreur que me donnait son mauvais naturel m'inspira la cruauté de l'animal dont j'avais pris la figure. Je l'étranglai ainsi que le traître qui l'avait accompagné, et j'emportai la belle après l'avoir promptement dépouillée et teint ses vêtements dans le sang de ses ennemis. Je les éparpillai dans la forêt après avoir eu la précaution de les déchirer en plusieurs endroits afin que l'on ne crût pas que la princesse en fût réchappée, et je me retirai très contente d'avoir si bien réussi. la fée se crut servie selon ses désirs. La mort de ses deux complices était un avantage pour elle. Elle devenait maîtresse de son secret, et le sort que je venais de leur faire éprouver était celui qu'elle leur avait destiné pour récompenser leur coupable service. Une autre circonstance qui lui fut encore avantageuse, c'est que des bergers, qui virent de loin cette expédition, coururent appeler du secours, qui arriva assez tôt pour trouver ces infâmes qui expiraient et vous ôter tout soupçon qu'elle y eût aucune part. Les mêmes incidents furent aussi favorables à mon entreprise. Ils convainquirent la méchante fée de la même chose que le vulgaire. Cet événement lui parut si naturel qu'elle n'en douta plus. Elle ne daigna pas même employer son pouvoir pour s'en assurer. Je fus ravi de sa sécurité. Je n'eusse pas été la plus forte si elle eût voulu reprendre la petite belle, parce qu'outre les raisons qui la faisaient ma supérieure et que je vous ai expliquées, elle avait l'avantage de tenir cet enfant de vous. Vous lui aviez confié votre autorité, contre laquelle il n'y avait que vous seul qui eussiez du pouvoir. Et, à moins de la retirer vous-même de ses mains, rien ne la pouvait soustraire aux lois qu'elle lui voudrait imposer jusqu'au temps qu'elle aurait été mariée. Délivré de cette inquiétude, je me vis accablé par une autre en me ressouvenant que la mère des temps avait condamné ma nièce à épouser un monstre. Mais elle n'avait pas encore 3 ans, et je me flattai de trouver par mon étude un expédient pour que cette malédiction ne s'accomplît pas à la lettre et que je la puisse faire tourner en équivoque. J'avais tout le temps d'y penser, et je ne m'occupai alors que du soin de trouver un lieu où je pusse mettre ma précieuse proie en sûreté. Fin de la 13e partie, lue par Ezoa, en Belgique, en avril 2010. Quatorzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. 14e partie. Le mystère m'était absolument nécessaire. Je n'osais lui donner un château, ni faire pour elle aucune magnificence de l'art. Notre ennemie s'en serait aperçue. Elle en eût eu quelque inquiétude, dont les suites eussent été funestes pour nous. J'aimais donc mieux prendre un habit simple et la confier au premier particulier que je rencontrerais, qui me paraîtrait homme de bien, et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie. Le hasard favorisa bientôt mes intentions. Je trouvai ce qui me convenait parfaitement. Ce fut une petite maison dans un hameau dont la porte était ouverte. J'entrai dans cette chaumière qui me parut être celle d'un paysan à son aise. Je vis à la clarté d'une lampe 3 paysannes endormies auprès d'un berceau que j'ai jugé être celui d'un nourrisson. Il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre. Tout en était somptueux. Je pensai que cette petite créature était malade et que le sommeil où ses gardes étaient plongés provenait de la fatigue qu'elles avaient eue auprès d'elle. Je m'en approchai sans bruit dans le dessein de lui donner du soulagement, et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eue en s'éveillant en trouvant leur malade guérie, sans savoir à quoi l'attribuer. Je m'empressais à tirer cet enfant de son berceau dans l'intention de lui souffler de la santé. Mais ma bonne volonté lui devint inutile. Il expirait au moment que je le touchais. Cette mort dans l'instant m'inspira le désir d'en profiter et de mettre ma nièce à sa place, si la bonne fortune voulait que ce fût une fille. Je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis. Ravie de cette occurrence, je fis sans tarder cet échange et j'emportai la petite morte que j'enterrai. Je revins ensuite à cette maison où je fis du bruit à la porte pour éveiller les dormeuses. Je leur dis dans un patois affecté que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit. Elles me l'accordèrent de bonne grâce et furent regarder leur enfant qu'elles trouvèrent endormi paisiblement et avec toutes les apparences d'une parfaite santé. Elles en furent joyeuses et surprises parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite en leur fascinant les yeux. Elles m'apprirent que cette petite fille était celle d'un riche marchand, qu'une d'elles était sa nourrice qui, après l'avoir sevrée, l'avait rendue à ses parents, mais que l'enfant était tombé malade chez son père, qui l'avait renvoyé à la campagne dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien. Elles ajoutèrent d'un visage satisfait, en regardant la petite, que cette expérience avait réussi et qu'elles produisaient un effet meilleur que tous les remèdes qu'on avait mis en usage avant de la leur rendre. Elles résolurent de la reporter à son père aussitôt qu'il ferait jour, pour ne lui point retarder la satisfaction qu'il en recevrait, et pour laquelle elle comptait de recevoir une grosse récompense, parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher, quoique la dernière de 11. Au lever du soleil, elles partirent. De mon côté, je feignis de continuer ma route en m'applaudissant d'avoir placé ma nièce si avantageusement. Pour augmenter encore sa sûreté, et pour engager ce père supposé à s'attacher à cette petite fille, je pris la figure d'une de ces femmes qui vont disant la bonne aventure, et me trouvant à la porte du marchand, lorsque les nourrices la lui rapportèrent, j'entrai avec elle. Il les reçut avec joie, et prenant cette petite fille entre ses bras, il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel, en croyant fermement que ses entrailles étaient émues à son aspect. Ce n'était que les mouvements du bon naturel qu'il confondait avec ceux de la nature. Je pris ce moment pour augmenter la tendresse qu'il s'imaginait ressentir.
« Regarde bien cette petite, mon bon seigneur, » lui dis-je dans le langage ordinaire aux personnes dont j'avais pris l'habit. « Elle te fera grand honneur dans ta famille, elle te donnera de grands biens et te sauvera la vie et à tous tes enfants. Elle sera tant belle qu'ainsi sera-t-elle nommée par tous ceux qui la verront. »
Pour récompense de ma prédiction, il me donna une pièce d'or, et je me retirai fort contente. Il ne restait plus rien qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam. Pour profiter de mon loisir, je passai dans notre empire, résolu d'y rester quelque temps. Je demeurai tranquillement à consoler ma sœur, en lui apprenant des nouvelles de cette chère fille, et en lui témoignant que, loin de l'avoir oubliée, vous chérissiez sa mémoire avec la même tendresse que vous aviez eue pour sa personne. Voilà, grand roi, quelle était notre situation, tandis que vous étiez pénétré du nouveau malheur qui vous avait privé de votre enfant et qui renouvelait les douleurs qui vous avaient fait ressentir la perte de sa mère. Quoique vous ne puissiez positivement accuser de cet accident celle à qui vous l'aviez confiée, il vous fut cependant impossible de vous empêcher de la regarder d'un mauvais œil, parce que s'il ne paraissait pas qu'elle fût coupable, elle ne pouvait se justifier sur le fait de la négligence que l'événement avait rendue criminelle. Après les premiers transports de votre affliction, elle se flattait qu'il n'y aurait plus d'obstacle qui vous empêchât de l'épouser. Elle vous en fit renouveler les propositions par ses émissaires. Mais elle fut désabusée, et sa mortification fut extrême quand vous déclarâtes que non seulement vous n'étiez pas plus que ci-devant dans l'intention de vous remarier, mais que, quand bien même vous changeriez d'idée, ce ne serait jamais en sa faveur. À cette déclaration, vous joignîtes un ordre pressant de sortir incessamment de votre royaume. Sa présence vous rappelait le souvenir de votre fille et renouvelait vos douleurs. Voilà le prétexte dont vous servîtes. Mais la principale raison que vous aviez, c'est que vous vouliez faire cesser les cabales qu'elle faisait continuellement pour venir à son but. Elle en fut outrée, mais il fallut obéir sans pouvoir se venger. J'avais engagé une de nos anciennes à vous protéger. Son pouvoir était considérable, parce qu'elle joignait à la vétérance l'avantage d'avoir été 4 fois serpent. Comme il y a un danger extrême à le devenir, il y a aussi des honneurs et un redoublement de puissance attachés. Cette fée, à ma considération, vous prenait sous sa protection et mit votre amante irritée hors d'état de vous faire aucun mal. Ce contretemps fut favorable à la princesse dont elle avait pris la ressemblance. Elle la fit sortir de son sommeil, et lui cachant le criminel usage qu'elle avait fait de ses traits, elle ne voulut lui faire voir que le beau de toutes ses actions. Elle n'oublia pas de faire valoir ses bons offices et la peine qu'elle lui avait épargnée. Et afin qu'elle continuât elle-même son propre personnage, elle lui donna des conseils salutaires pour se maintenir. Ce fut alors que, cherchant à se consoler de votre indifférence, elle retourna auprès du prince et qu'elle y renouvela ses soins. Elle le chérit. Elle l'aima trop, et cette fée, ne pouvant s'en faire aimer, lui fit ressentir un terrible effet de sa fureur. Cependant, le moment de ma vétérance était insensiblement venu, et mon pouvoir augmentait. Mais le désir de servir ma sœur et vous me persuada que je n'en avais pas encore assez. Ma sincère amitié me déguisant le péril des fastes dangereux, je voulus le franchir. Je devins serpent, et je m'en tirai heureusement. C'est ce qui me mit en état d'agir sans mystère pour le service de ceux que nos mauvaises compagnes oppriment.
si je ne puis pas, dans toutes les occasions, détruire entièrement les charmes funestes, j'en ai souvent le pouvoir, et du moins je suis toujours la maîtresse de les adoucir par ma puissance et par mes conseils. Ma nièce était du nombre de celles à qui je ne pouvais faire la faveur entière. N'osant découvrir l'intérêt que j'y prenais, il me parut plus à propos de la laisser sous le nom de la fille du marchand. J'allais sous différentes formes la voir souvent, et j'en revenais toujours satisfaite. Sa vertu et sa beauté égalaient son esprit. Âgée de 14 ans, elle avait déjà fait voir une constance admirable dans la bonne et mauvaise fortune que son prétendu père avait éprouvée. Je fus ravi de connaître que les plus cruels revers n'avaient point été capables d'altérer sa tranquillité. Au contraire, par sa gaieté, par la douceur de sa conversation, elle s'était fait un devoir de la ramener à son père et à ses frères, et j'avais le plaisir de voir qu'elle avait des sentiments dignes de sa naissance. Mais cette douceur était mêlée de la plus cruelle amertume quand je me rappelais que tant de perfections étaient destinées pour un monstre. Je travaillais, je m'occupais vainement, nuit et jour, à chercher les moyens de la garantir d'un si grand malheur, et j'étais au désespoir de ne pouvoir rien imaginer. Cette inquiétude ne m'empêchait pas de faire de fréquents voyages auprès de vous. Votre femme, qui n'en avait pas la liberté, me sollicitait sans cesse de vous aller voir, et malgré la protection de notre amie, sa tendresse alarmée lui persuadait toujours que les moments où je vous perdais de vue étaient les derniers de votre vie, et ceux que notre ennemi sacrifiait à sa fureur. Cette appréhension la troublait si fort qu'à peine me donnait-elle le temps de me reposer. Quand je venais lui rendre compte de l'état où vous étiez, elle me suppliait avec tant d'instance d'y retourner qu'il m'était impossible de la refuser. Touché de son inquiétude et voulant plutôt la faire cesser que m'épargner les peines qu'elle me causait, je me servis contre notre barbare compagne des mêmes armes dont elle s'était servie contre nous, et je fus ouvrir le grand livre. Par bonheur, ce fut au moment de la conversation qu'elle eut avec la reine et avec le prince, et la même qui se termina par sa métamorphose. Je n'en perdis pas un mot, et mon ravissement fut extrême de ce que, pour mieux assurer sa vengeance, elle détruisait sans le savoir le tort que la mère des temps nous avait fait en assujettissant la belle à l'hymen d'un monstre. Pour comble de bonheur, elle y mettait des circonstances si avantageuses qu'il semblait qu'elle les eût faites exprès et dans l'unique intention de m'obliger, car elle fournissait à la fille de ma sœur l'occasion de faire connaître qu'elle était digne de sortir du plus pur sang des fées. Un signe, le moindre geste, exprime parmi nous tout ce que le vulgaire ne pourrait prononcer en 3 jours. Je ne dis qu'un mot d'un air méprisant. C'en fut assez pour faire connaître à l'assemblée que le procès de notre ennemi avait été fait par elle-même dans l'arrêt qu'elle avait fait rendre 10 ans devant contre votre épouse. À l'âge de cette dernière, il semblait plus naturel d'avoir des faiblesses de l'amour qu'à une fée du premier ordre et d'un plus grand âge. Je parle des bassesses et des mauvaises actions qui avaient accompagné cet amour suranné. Je représentai que si tant d'infamies restaient impunies, on aurait sujet de dire que les fées n'étaient dans le monde que pour déshonorer la nature et pour affliger le genre humain. En leur présentant le livre, je renfermai ma brusque harangue dans le seul mot « voyez ». Elle n'en fut pas moins puissante. J'avais de plus des amies jeunes et vétérantes qui traitèrent la vieille amoureuse comme elle le méritait. Elle n'avait pu vous épouser, et l'on ajouta à cette punition le déshonneur d'être dégradée de l'ordre, et on la traita comme la reine de l'île heureuse. Ce conseil se tint pendant qu'elle était avec vous. Dès qu'elle parut, on lui en signifia le résultat. J'eus le plaisir d'en être témoin. Après quoi, refermant le livre, je descendis avec précipitation de la moyenne région de l'air, où réside notre empire, pour m'opposer à l'effet du désespoir où vous étiez prête à vous abandonner. Je n'employai pas plus de temps à faire ce voyage que j'en avais mis à ma laconique harangue. J'arrivai assez tôt pour vous promettre mon secours. Toutes sortes de raisons m'y invitaient. « Vos vertus, vos malheurs, » dit-elle au prince en se tournant de son côté, « l'avantage que je trouvais pour la belle me faisait voir en vous le monstre qui me convenait. Vous me sembliez seuls dignes l'un de l'autre, et je ne doutais pas que, lorsque vous vous connaîtriez, vos cœurs ne se rendissent une justice mutuelle. « Vous savez, » dit-elle à la reine, « ce que j'ai fait depuis pour y parvenir, et par quelle voie j'ai obligé la belle de se rendre dans ce palais où la vue du prince et son entretien
dont je la faisais jouir en songe, ont eu l'effet que je pouvais souhaiter. Ils ont enflammé son cœur sans ébranler sa vertu et sans que cet amour ait eu le pouvoir d'affaiblir le devoir et la reconnaissance qui l'attachaient au monstre. Enfin, j'ai conduit heureusement toutes choses à leur perfection. « Oui, prince, poursuivit la fée, vous n'avez plus rien à redouter du côté de votre ennemi. Elle est dépouillée de sa puissance et ne sera jamais en pouvoir de vous nuire par de nouveaux charmes. Vous avez exactement rempli les conditions qu'elle vous avait imposées, car si vous ne les aviez pas exécutées, elle subsisterait toujours malgré son éternelle disgrâce. Vous vous êtes fait aimer sans le secours de votre esprit et de votre naissance, et vous, la belle, vous êtes pareillement quitte de la malédiction que la mère des temps vous avait donnée. Vous avez bien voulu prendre un monstre pour votre époux. Elle n'a plus rien à exiger. Tout est désormais porté à votre bonheur. » La fée cessa de parler, et le roi, se jetant à ses pieds, « Grande fée, lui dit-il, comment pourrais-je vous remercier de toutes les grâces dont vous avez daigné combler ma famille? La reconnaissance que j'ai de vos bienfaits est infiniment au-dessus de toute expression. Mais, mon auguste sœur, ajouta-t-il, ce nom m'encourage à vous demander encore de nouvelles grâces, et malgré les obligations que je vous ai, je ne puis m'empêcher de vous dire que je ne serai point heureux tant que je serai privé de la présence de ma chère fée. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle souffre pour moi, augmenterait mon amour et ma douleur, si l'un et l'autre n'étaient pas à son plus haut point. Ah, madame, ajouta-t-il, ne pourriez-vous point combler la mesure de vos bienfaits en me la faisant voir ? » Fin de la 14e partie, lue par Ezoy, en Belgique, en avril 2010. Quinzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quinzième partie. Cette demande était inutile. Si la fée avait pu lui rendre ce bon office, elle était trop zélée pour attendre qu'il le lui demandât. Mais elle ne pouvait détruire ce que le conseil des fées avait ordonné. La jeune reine étant prisonnière dans la moyenne région de l'air, il n'y avait pas d'apparence d'usée d'industrie pour la lui faire voir. Et la fée allait le lui faire entendre avec douceur et l'exhorter à prendre patience en attendant quelque événement imprévu, dont elle se promettait de profiter, lorsqu'une symphonie ravissante se fit entendre et l'interrompit. Le roi, sa fille, la reine et le prince en furent extasiés. Mais la fée eut une autre sorte de surprise. Cette musique indiquait le triomphe des fées. Elle ne comprenait point qui pouvait être la triomphatrice. Son idée se fixa sur la vieille fée ou sur la mère des temps, qui dans son absence avait peut-être obtenu l'une sa liberté, l'autre la permission de causer des nouvelles traverses à ses amants. Elle était dans cette perplexité lorsqu'elle en fut agréablement tirée par la présence de la fée, sa sœur, reine de l'île heureuse, qui parut tout d'un coup au milieu de cette troupe charmante. Elle n'était pas moins belle que quand le roi son époux l'avait perdue. Le monarque, qui ne la méconnut pas, en faisant céder le respect qu'il lui devait à l'amour qu'il avait conservé pour elle, l'embrassa avec des transports et une joie qui surprit cette reine elle-même. La fée, sa sœur, ne pouvait imaginer à quel heureux prodige elle devait sa liberté. Mais la fée couronnée lui apprit qu'elle ne devait son bonheur qu'à son propre courage qu'il avait porté à exposer ses jours pour une autre. « Vous savez, dit-elle à la fée, que la fille de notre reine a été reçue dans l'ordre en naissant, mais qu'elle ne tient pas le jour d'un père sublunaire, l'ayant reçue du sage Amadabak, dont l'alliance honore les fées, et qui est beaucoup plus puissant que nous par sa science sublime. Malgré cela, il n'est point arbitraire pour sa fille de devenir serpente au bout de ses 100 premières années. Ce terme fatal est arrivé, et notre reine-mère, aussi tendre pour cette chère enfant, et aussi alarmée de son sort que le pourrait être une créature ordinaire, n'a pu se résoudre à l'abandonner au risque des accidents qui la pouvaient faire périr en cet état, et dans sa première jeunesse, les malheurs de celles qui y ont succombé n'étant devenus que trop communs pour autoriser ses craintes. La douloureuse situation où j'étais m'ôtait tout espoir de revoir mon tendre épouse et mon aimable fille. J'avais un dégoût parfait pour une vie que je devais passer séparée d'eux. Ainsi, sans balancer, je pris le parti de m'offrir à ramper pour dégager la jeune fée. Je voyais avec joie un moyen sûr, prompt et honorable pour me délivrer de tous les malheurs dont j'étais accablée par la mort ou par une liberté glorieuse qui, me rendant maîtresse de mon sort, me permettrait de me rejoindre à mon époux. Notre reine ne balança plus à accepter cette offre si flatteuse à l'amour maternel que j'avais balancé à le lui faire. Elle m'embrassa 100 fois et me promit de me rétablir dans tous mes privilèges, de me rendre la liberté sans condition, si j'étais assez heureuse pour échapper à ce danger. Je m'en suis tirée sans accident. Le fruit de mes peines a été attribué à la jeune fée au nom de qui je m'exposais. J'ai tout de suite recommencé à mon profit. L'heureux succès de mon premier faste m'a encouragée pour le second, où j'ai également réussi. Cette action m'a rendue vétérante et par conséquent indépendante. Je n'ai pas tardé à profiter de ma liberté pour me rendre ici et rejoindre une famille si chère. Quand la reine fée eut achevé d'instruire son tendre auditoire, les caresses recommencèrent. C'était une confusion charmante, on se les faisait et on se les rendait sans presque s'entendre, surtout de la part de la belle, enchantée d'appartenir à de si illustres parents et de n'avoir plus à craindre de déshonorer le prince, son cousin, en lui faisant faire une alliance indigne de lui. Mais quoique transportée de l'excès de son bonheur, elle n'oublia pas le bonhomme qu'elle avait cru son père. Elle rappela à la fée, sa tante, la promesse qu'elle lui avait faite de permettre qu'il eût avec ses enfants l'honneur d'assister à la fête de son hymen. Elle lui en parlait encore, lorsque de la fenêtre, elles virent paraître 16 personnes à cheval, dont la plupart avaient des corps de chasse et paraissaient fort embarrassées. Le désordre de cette troupe marquait assez que les chevaux les avaient emportés par force. La belle les reconnut aisément pour les 6 fils du bonhomme, leurs sœurs et leurs 5 amants. Tout le monde, excepté la fée, fut surpris de cette brusque entrée. Ceux qui la faisaient ne le furent pas moins de se trouver par la fougue de leurs chevaux transportés dans un palais qui leur était inconnu. Voici comment cet accident leur était arrivé. Ils étaient tous à la chasse lorsque leurs chevaux, se réunissant à un escadron, avaient couru avec rapidité jusqu'au palais sans qu'il leur eût été possible de les retenir malgré tous les efforts qu'ils avaient pu faire. La belle, oubliant sa dignité présente, se hâta d'aller au-devant d'eux pour les rassurer. Elle les embrassa tous avec bonté. Le bonhomme père parut aussi, mais ce fut sans désordre. Le cheval était venu hennir et gratter à sa porte. Il n'avait pas douté qu'il ne le vînt chercher de la part de cette chère fille. Il s'en servit sans crainte, et jugeant bien où sa monture le portait, il ne fut point étonné de se trouver dans la cour d'un palais qu'il revoyait pour la 3e fois, et où il se doutait qu'il était conduit pour assister au mariage de la belle et de la bête. Dès qu'il put l'apercevoir, il courut à elle les bras ouverts, en bénissant l'heureux moment qui la présentait à ses yeux et comblant de bénédictions la bête généreuse qui permettait son retour. Il promena ses regards de tous côtés, dans le dessein de lui rendre de très humbles grâces pour les bontés dont elle comblait sa famille et surtout la dernière de ses filles. Il fut fâché de ne la point apercevoir, et appréhenda que ses conjectures ne fussent fausses. Cependant, la présence de ses enfants lui donnait lieu de croire qu'il avait pensé juste et qu'il n'aurait pas été attiré dans ce lieu s'il n'avait pas été question d'une fête solennelle telle que le devait être cet hymen. Cette réflexion se faisait dans l'intérieur du bonhomme et ne l'empêchait pas de serrer tendrement la belle entre ses bras en lui mouillant le visage des larmes que sa joie lui faisait répandre. Après la lui avoir laissé goûter à son aise, « C'est assez, bonhomme, » lui dit enfin la fée. « Vous avez suffisamment prodigué vos caresses à cette princesse. Il est temps que, cessant de la regarder comme un père, vous appreniez que ce titre ne vous appartient pas et que vous devez à présent lui rendre hommage comme à votre souveraine. Elle est princesse de l'île heureuse, fille du roi et de la reine que vous voyez. Elle va devenir l'épouse de ce prince. Voilà la reine sa mère, sœur du roi. » « Je suis fée son amie et tante de la belle. Quant au prince, ajouta-t-elle, en voyant que le bonhomme le regardait fixement, il vous est plus connu que vous le pensez, mais il est différent de ce que vous l'avez vu. En un mot, c'est la bête elle-même. » Apprenant de si surprenantes nouvelles, le père et les frères en furent ravis, tandis que les sœurs en sentirent une douloureuse jalousie. Mais elles la déguisèrent sous les apparences d'une feinte satisfaction dont personne ne fut la dupe. Cependant, on feignit de les croire sincères. Pour les amants, que l'espérance de posséder la belle avait rendus inconstants et qui n'étaient rentrés dans leur première chaîne qu'en désespérant de l'obtenir, ne savaient qu'imaginer. Le marchand ne put s'empêcher de pleurer, sans pouvoir décider si ses larmes provenaient du plaisir de voir le bonheur de la belle ou de la douleur de perdre une fille si parfaite. Ses fils étaient agités par les mêmes sentiments. La belle, extrêmement sensible au témoignage de leur tendresse, supplia ceux de qui elle dépendait alors, ainsi que le prince son futur époux, de lui permettre de reconnaître une si tendre affection. Sa prière témoignait trop la bonté de son cœur pour qu'elle ne fût pas écoutée. Ils furent comblés de bien, et sous le bon plaisir du roi, du prince et de la reine, la belle leur conserva les noms affectueux de père, de frère, et même de sœur, quoiqu'elle n'ignorait pas que ces dernières n'en avaient pas plus le cœur que le sang. Elle voulut que tous continuassent à se servir du même nom dont ils l'appelaient quand ils la croyaient de leur famille. Le vieillard et ses enfants eurent des emplois à la cour de la belle et jouirent continuellement du bonheur de vivre auprès d'elle dans un rang assez illustre pour être généralement considéré. Pour les amants des sœurs, dont la passion se serait aisément rallumée s'ils n'en avaient connu l'inutilité, ils se trouvèrent trop heureux de s'unir aux filles du bonhomme et d'épouser des personnes pour qui la belle conservait tant de bonté. Tous ceux qu'elle désirait qui fussent présents à son mariage étaient arrivés. On ne le différa pas plus longtemps, et pendant la nuit qui suivit cet heureux jour, le prince ne fut point frappé du charme assoupissant sous lequel il avait succombé dans celle des noces de la bête. Pour célébrer cette auguste fête, plusieurs jours s'écoulèrent dans les plaisirs. Ils ne finirent que parce que la fée, tante de la jeune épouse, les avertit qu'ils ne devaient plus tarder à quitter cette belle solitude, qu'il fallait retourner dans leurs états pour se montrer à leur sujet. Il fut à propos qu'elle les fit souvenir de leur royaume et des devoirs indispensables qui les y rappelaient. Enchantés du séjour qu'ils habitaient, charmés du plaisir qu'ils avaient de s'aimer et de se le dire, ils avaient entièrement oublié la grandeur souveraine ainsi que l'embarras qui la suit. Les nouveaux époux proposèrent même à la fée d'y renoncer et de consentir qu'elle disposât de leur place en faveur de qui elle jugerait à propos. Mais cette sage intelligence leur représenta vivement qu'ils étaient autant obligés à remplir la destinée qui les avait chargés du gouvernement de leur peuple que ces mêmes peuples l'étaient à conserver pour eux un respect éternel. Ils cédèrent à de si justes remontrances, mais le prince et la belle obtinrent qu'il leur serait permis de venir quelquefois en ce lieu se délasser des peines inséparables de leur condition et qu'ils y seraient servis par les génies invisibles ou les animaux qui leur avaient tenu compagnie les années précédentes. Ils profitèrent le plus qu'il leur fut possible de cette liberté. Leur présence paraissait embellir ces lieux. Tout s'empressait à leur plaire. Les génies les y attendaient avec impatience et les recevant avec joie, leur témoignaient de cent façons celles qu'ils ressentaient de leur retour. La fée, de qui la prévoyance était attentive à tout, leur donna un char tiré par 12 cerfs blancs à cornes et à pinces d'or, comme étaient les siens. La vitesse de ces animaux surpassait presque celle de la pensée, et par leurs moyens, l'on pouvait aisément faire le tour du monde en 2 heures. De cette sorte, ils ne perdaient point de temps à leur voyage. Ils profitaient de tous les instants qu'ils pouvaient donner à leur plaisir. Ils se servaient aussi de ce galant équipage pour aller souvent voir le roi de l'île heureuse, leur père, que le retour de la reine fée avait si prodigieusement rajeuni, qu'il ne le cédait pas en beauté et en bonne mine au prince son gendre. Ils se trouvaient aussi heureux, étant ni moins amoureux, ni moins empressés que lui à donner à son épouse des témoignages continuels de ses sentiments, laquelle, de son côté, y répondait avec tout l'amour qui avait si longtemps causé ses infortunes. Elle avait été reçue de ses sujets avec des transports de joie aussi grands qu'elle leur en avait causé de douleur par la perte sensible de son affection, et les aima toujours chèrement. Rien ne s'opposa alors à sa puissance. Elle la leur témoigna pendant plusieurs siècles par toutes les marques de bonne volonté qu'ils purent désirer. Son pouvoir, joint à l'amitié de la reine des fées, conserva la vie, la santé et la jeunesse au roi son époux. Ils cessèrent de vivre l'un et l'autre, parce que l'homme ne peut pas toujours durer. Elle et la fée, sa sœur, eurent la même intention pour la belle, pour son époux, la reine sa mère, le vieillard et sa famille, en sorte qu'on n'a jamais vu tant vivre. La reine, mère du prince, n'oublia pas de faire inscrire cette histoire merveilleuse dans les archives de cet empire et dans celle de l'île heureuse pour la transmettre à la postérité.
on en envoya des relations par tout l'univers, afin qu'il y fût éternellement parlé des aventures prodigieuses de la Belle et de la Bête. Fin de la 15e partie. Fin de La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Lue par Ezoy, en Belgique, en avril 2010.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.